Vous écoutez Les Contes de la Cité Ouest. Deuxième épisode. Portrait d'un quartier.
Et ici, à la Cité Ouest, les appartements vont du studio aux 6 pièces. Ils sont lumineux, comme vous pouvez voir. Il y a des grandes baies. Voilà. Le premier, c'est le A, celui qui est le long de l'avenue du Mont-Blanc. Il a reçu son permis de construire en 1967. Vous voyez que c'est ancien. Le deuxième, c'est le C, où nous nous trouvons, qui lui a été terminé en 71. Et puis, il y a les deux tours, en 74 et 76.
Alors, l'architecture de la Cité Ouest, ça fait partie des grands ensembles d'immeubles des années 70 où on a décidé de construire des quartiers à haute densité, mais avec des grands espaces verts. En fait, c'est les concepts de Corbusier qu'on voit à la Cité Ouest, puis qu'on retrouve en fait à travers toute l'Europe d'ailleurs.
Donc là, le projet de base, c'était ces 5 bâtiments, avec 3 en longueur et 2 tours de 14 étages, et puis une zone commerciale ici avec une piscine, et la petite école qui était là. Ça, c'était à la base. Et puis, depuis, la zone commerciale est venue s'installer ici à côté de l'école, toujours. Par contre, la piscine n'a jamais vu le jour.
C'est pas forcément tous ces bâtiments sont aussi bien que les bâtiments de Corbusier, mais l'idée d'avoir une grosse barre d'immeubles, que nous on voyait ça d'un mauvais oeil en disant ah, ces immeubles on est tous entassés comme des cages à lapins, c'est les HLM, c'est les bâtiments à haute densité. Aujourd'hui en fait c'est des bâtiments de très haute qualité.
L'évolution du quartier, il y a eu un mur anti-bruit qui a été créé en 1990 parce qu'évidemment l'autoroute fait beaucoup de bruit. Et ceci maintenant, 24 heures sur 24. Il y a aussi le Cité-Centre qui est venu s'installer au fin des années 80, donc des commerces et des bureaux.
Aujourd'hui, habiter à la Cité Ouest, c'est mieux que n'importe où. Pourquoi ? Parce que non seulement les appartements sont très grands, et les grands espaces, verts autour, tu as une vue dégagée comme peu ont, c'est extraordinaire. Et aujourd'hui, c'est très prisé, ce genre d'immeuble. À Lausanne, si tu as la chance d'habiter dans une tour, tu peux t'estimer chanceux.
Ce qu'il y a de bien aussi, c'est la multiculturalité. Par exemple, dans cette entrée, vous avez une famille de Kosovars, une famille d'Érythréens, avec qui nous avons des bons contacts, il n'y a pas de problème. Et puis aussi, cette nature-là au milieu nous permet d'avoir des oiseaux. Alors il y a les moineaux, mais il y a aussi des pies qui se promènent beaucoup. Et puis plusieurs fois, nous trouvons sur la route des cigognes, soit qui remontent, soit qui descendent vers l'Afrique. Et elles sont arrêtées plusieurs fois au sommet d'une des deux tours, donc c'est joli à observer aussi. Donc c'est dire un peu tout ce qu'on peut vivre ici.
Quand on était gamin, c'était à la Cité Ouest, on habite à la cité, quoi. Et puis... On voyait ça un peu du mauvais œil, alors qu'en fait, c'était bourré de qualité. On était extrêmement chanceux d'habiter là-bas, quoi. Parce que non seulement il y avait une craquée de gamins avec qui jouer, mais comme je disais avant, il y a des très grands espaces verts, et on en a bien profité, et on peut en profiter encore aujourd'hui.
Il passait un petit peu, il est un petit peu passé à travers toutes les images. On va dire, ce quartier, il a un petit peu eu toutes les réputations. Même si aujourd'hui encore, Yann, il garde une certaine réputation de quartier un petit peu où les jeunes traînent, où il y a un peu plus de bruit que d'habitude, où le week-end, il peut y avoir quelquefois des interventions de la police pour dire aux jeunes de se calmer, etc. Mais en vrai de vrai, avec le recul, avec les années, je me dis que c'était un quartier un petit peu comme un autre. Hein. Sauf que voilà, il y avait un petit peu plus de melting pot où il y avait des gens un petit peu de tout horizon, de toute origine. Personne n'a jamais parlé de se dire ouais, toi t'es de telle origine, moi je suis de telle origine ou quoi que ce soit. On était des gamins, on jouait tout simplement.
Ah ouais, pour moi, Gland, ça reste le centre du monde. Ouais. y a pas à chier. Gland, c'est hyper important pour moi parce que c'est la ville de mon père en fait.
Donc moi j'habitais à la Cité Ouest, c'était l'immeuble qui donnait en face de la sortie d'autoroute. Je suis né là-bas et je crois que c'est un peu en grandissant que je me suis rendu compte que c'était un petit peu un quartier populaire dans la région. Sur le moment, je ne m'en rendais pas compte, c'était juste normal. Enfin, il y avait pas mal de mixité, c'était assez cosmopolite comme ça. Et puis ouais, c'est un peu en grandissant et puis en étant confronté dans l'échange avec les autres où j'ai pu voir que c'était un quartier un peu assez ouvert, assez cosmopolite.
Ouais, j'en garde d'assez bons souvenirs, dans le sens où on était toute une équipe et puis qu'on avait, des espaces verts à l'extérieur à disposition qui étaient assez grands. Et puis le fait que ce soit un peu un vase clos, ça, je pense que ça nous a aussi permis de circuler pas mal quand on était assez petits sans que les parents soient tout le temps derrière nous. On avait une certaine liberté.
Bon, la Cité Ouest, c'est un quartier mythique. Les gens de la Cité Ouest, c'est les gens de la Cité Ouest, ils avaient une identité, tandis que les autres quartiers, on s'en foutait, quoi. Je veux dire, on va pas parler du quartier de l'Aubépine ou du quartier du Bourgeot, ou je sais pas quoi, tout ça, on s'en foutait, en fait. Les gens, ils venaient jouer à la Cité Ouest parce qu'il y avait les terrains de sport, parce qu'il y avait des grands espaces.
Du coup, je m'appelle Jonas Canton, j'habite à Nyon, j'ai émigré de Gland. Je suis parti 6 km plus loin. En plus, le côté est de Nyon, pour être proche de Gland. Et moi, à cette époque-là, j'habitais à la Grand-Rue. Donc, ce n'était pas les mêmes quartiers. Mais l'école n'était pas trop loin des Perreux. Et du coup, des fois, je faisais des petits crochets, quoi, pour aller voir tout ce beau monde. Ouais, je me souviens quand on allait à la Cité Ouest. Je me souviens de parties de cache-cache. Je me souviens pas mal de choses, mais c'était toujours assez général parce que ça remonte à il y a pas mal de temps. Donc c'était des grosses parties de cache-cache où on courait un peu de tous les côtés. Je sais pas, la Cité Ouest, elle est gigantesque. Il y a peut-être peut-être 6 gros immeubles de 6-8 étages, même plus pour les tours. Et du coup, c'était... On avait le droit à se cacher à peu près n'importe où. Donc c'était méga énorme comme terrain.
Pour jouer, on se souvient des grandes parties de cache-cache interminables. Celui qui devait chercher les autres, pas de bol pour lui. Généralement, il finissait par rentrer chez lui parce que ses parents l'appelaient pour aller manger. Puis les autres, ils étaient toujours cachés. Puis la partie, elle commençait un jour, mais elle finissait jamais.
Du coup, je m'appelle Cyril Artero. Je vais avoir 31 ans. Je suis éducateur social. Je travaille à Lausanne comme animateur socioculturel, principalement vers Écublanc. J'ai grandi de mes 0 à 18 ans à la Cité Ouest à Gland. Ensuite, j'ai bougé à Beugnin. Et là, ça fait quelque chose comme 7 ans que j'habite à Nyon. Et puis, en fait, c'est un quartier assez... franchement, c'est super sympa. C'est pas non plus... c'était pas non plus des ambiances qui n'étaient pas maîtrisées. C'était assez chouette d'évoluer là-bas. Il y avait beaucoup de jeunes. Il y avait beaucoup d'anciens, mais il y avait aussi beaucoup de jeunes de cultures différentes. Et moi, les premiers rapports que j'ai eus, c'était avec le quartier, c'était en... Dans un premier temps, dans la cour en bas de mon immeuble. Donc j'étais autorisé à descendre en bas de mon immeuble et puis à jouer avec les potes en bas de cet immeuble. Les premiers échanges que j'ai eus avec des enfants, c'était en bas. Et puis au fur et à mesure, je pouvais développer mon exploration. Donc c'était derrière le bâtiment. Et on allait aussi beaucoup jouer au parc qui était à l'endroit où il y a les tuyères aujourd'hui. L'école des tuyères.
Le quartier de Grandchamp, de la Cité Ouest a beaucoup changé. Hein. Il n'y avait pas l'école des tuyères.
Donc il y avait le parc, il y avait un parc de jeux, une place de jeux au centre du quartier, à la place de l'école qu'il y a maintenant. Et puis on traversait forcément cette place de jeux pour rentrer de l'école ou pour y aller. Puis des fois on traînait un petit peu là, enfin, on n'avait pas des masses de responsabilités ou de devoirs à ce moment-là.
Donc moi je m'appelle Stéphanie et j'ai grandi à Gland. Je sais même plus combien, enfin en gros de l'école enfantine jusqu'à la fin du gymnase, j'habitais à Gland. Je suis allée à l'école au Perreret et ensuite à Grandchamp pour l'école secondaire. Et voilà, ensuite je suis partie de Gland dès que j'ai pu. je sais pas, nous on avait grandi dans un quartier de villa et du coup la Cité Ouest c'était vraiment un peu un autre monde. Et je pense que ça l'était, hein. Franchement, t'as pas les mêmes revenus, c'est pas le même type de population, hein, c'est vrai. Et du coup, je pense qu'on avait d'un côté pas conscience de ça, mais de l'autre côté, il y avait un peu la projection de « Ah, c'est les gars un peu plus... ouais, un peu plus de la rue... »
En 4x4, en Porsche Cayenne. Bah ouais, tu verras jamais un boss AIM. Ça y est, tu peux crier BESOS. Salam aux Albanais qui sont là où le soleil se lève. Ça tape, c'est crap, c'est vert, scratch jusqu'à l'abcès, crash, c'est vert. Contact, j'accélère. Ah, je vais t'harceler. J'ai trop de level, level pour les fous du bled, bled. Debout, on se lève, lève.
Moi, j'ai découvert le rap ici. C'est-à-dire que le rap, je connaissais pas. Je sais pas ce que c'était comme genre musical. Je connaissais la musique albanaise folklorique, je connaissais le rock'n'roll, à la limite ce que j'entendais un petit peu à la radio, etc. Quand mon père mettait la radio dans la voiture. Quand je suis arrivé ici, là je découvre qu'il y a un genre musical qui s'appelle le rap. Alors au début c'est pas tout de suite le rap français, c'est le rap américain. Et par la suite c'est le rap français. Plus précisément, c'est Brice, Kenny et Christophe, même Christophe aussi, qui m'ont fait un petit peu découvrir tout ça. Et moi, ça me parle direct. Ça me parle parce que je vois... J'ai jamais vu, en fait, autant d'expressions dans un genre musical. Enfin, autant quelque chose qui est aussi expressif que ça. Les mots comme ça qui arrivent un petit peu dans tous les sens, le flow, etc., Je me disais, c'est quelque chose de complètement inconnu, mais qui m'a parlé tout de suite.
Et pas peur si t'entends le Beretta qui tire, c'est pour souhaiter la bienvenue de mon place Eva City. Eh mais là c'est qui? Là c'est Pest, je retournerai au bled le jour où j'aurai assez de chèque. Attends l'été pour voir pointer le bruit du Z, suffit d'un peu de sunshine.
Les meilleurs rappeurs que j'ai vus sont là-bas, franchement, à Gland c'était la folie. La mentale des gens là-bas, elle était déjà bien, parce que là où j'ai grandi, enfin en Charmy c'était différent, la mentale des gens. Et là-bas, c'était quand même bien différent. Et c'était plus sage, plus réfléchi là-bas, sur le côté de la Cité Ouest. Ouais, je me mélangeais déjà bien avec les grands et tout. Donc, il n'y avait pas de... Nous, on est trop les petits et tout. On pouvait se mélanger avec les grands. On écoutait leurs sujets de conversation. Tout ça, quoi. C'était... Mais j'ai adoré l'ambiance à la Cité Ouest. Elle était incroyable. Tout le monde qui rappait, on se rejoignait tous aux tables de ping-pong à la cité. Ça, pour ça, c'était... Je me suis toujours senti bien. On était vraiment une bonne équipe. Puis bon, Gland, c'est pas très grand, donc tout le monde se connaît assez vite, machin. Mais vraiment, pour la Cité Ouest, on était toujours tous ensemble, ouais.
Bon, forcément, on était dans les années 90, le breakdance, le hip-hop, c'était le truc underground que les gens faisaient, puis que nous, on connaissait pas, puis que si t'avais un grand frère, c'était peut-être au courant, quoi.
Les grands, ils font du rap à Gland. Je dis non. Je dis, ah si, ils font du rap à Gland. Et là, j'écoute, et je vois que ça sonne exactement pareil que ce que j'écoute quand j'écoutais Sniper, quand j'écoutais les psychiatres de la rime, quand j'écoutais... Ça sonne exactement pareil. Je dis, alors en fait, on a le droit de faire du rap aussi. Donc je m'essaye, j'essaye à ça. J'essaye d'écrire, j'essaye de... Et c'est parti de là, hein. 11, 12 ans, où j'ai commencé à écrire. Et après, par la suite, je me suis plus arrêté. Il a toujours cru en moi. Au niveau de la musique, il a toujours cru en moi. Et même aujourd'hui, il me dit souvent, toi, si tu veux, tu peux percer dans la musique et tu peux faire ce que tu veux dans la musique. Après, ça c'est un autre sujet, bien entendu, mais effectivement, on avait pas les moyens. C'est vraiment beaucoup plus tard, à l'âge de 16-17 ans, on va dire, que j'ai commencé à me payer mes premières sessions studio pour enregistrer mes premiers titres.
Alors, il y avait un grand de chez nous qui s'appelle Cello, qui était dans la production. Il avait, à l'époque, il avait une MPC, je crois que ça s'appelle comme ça, une Akai MPC, là. C'était beaucoup des prods boom bap, c'est ce qui se faisait à l'époque. Et je le voyais tout le temps faire des prods incroyables. Donc moi j'aimais ça et tout, puis on a commencé à se connecter comme ça et tout. Puis quelques années plus tard, on s'est mis ensemble, on a essayé de fonder un label ensemble. On a fondé un label ensemble qui s'appelle West Block. D'ailleurs West Block pour Cité Ouest. Et voilà, ouais, ça s'est fait comme ça.
Après, on est parti. C'est tard. On est parti à Monaco. J'étais déjà marié. On est parti à Monaco, au sud de la France, pour faire un clip. Pour faire un clip d'un autre pote. Et ça, c'était magnifique aussi. On a fait un clip, mais c'est le clip de Sema, de Massimo. C'est un autre gars. En fait, il vient de Genève à la base, mais son père habitait à la Cité Ouest. Et du coup, il était souvent à la Cité Ouest. Il est même encore aujourd'hui, il est souvent à la Cité Ouest. Et du coup, on a fait le clip, on est descendu. Normalement, on ne devait pas descendre à la base. Mais on avait tellement envie que. Allez, on est parti, c'est un coup de tête.
J'ai pissé le sang quand il se pissait dessus. J'ai crié le temps quand j'écrivais plus. Et je brillais tant quand j'étais dans la rue. Mais les billets de banque m'ont fait perdre la vue. Tu récoltes ce que tu sèmes, donc n'est pas le somme. Ou assume ce que tu fais. Tu déconnes et tu saignes, mais t'es pas le seul. Je te rassure, on le sait. On a fait les 400 coups trop jeunes. Et beaucoup s'en plaignent aujourd'hui. Je sais que je meurs seul. Donc il faut que je m'en imprègne. J'écoute pas les rageux, leurs ragots. Tous ces bâtards me dégoûtent. Trop de mal à vivre depuis que je vois que le temps s'écoule. Trop de parasites, mets tes bâtons dans les roues. Ne sois pas trop naïf, ça t'évitera la déroute. Quoi qu'il en advienne, le mal est fait, je peux pas faire autrement. Puis mon karma chaque jour, espérant un meilleur lendemain.
C'était à Marseille, ouais. Ouais, c'était 2016. 2016, on a réussi à coffrer un budget avec Cello. Et on a décidé de partir sur Marseille pour aller tourner un clip. Et Christophe nous a suivis, quoi. Et puis Christophe, Lab, tous ces mecs, on s'est retrouvés là-bas. On était presque 10-15 dans une grande villa. On s'est tous retrouvés là-bas pour le faire et tout, c'était vraiment bien.
C'était pour quel morceau ?
C'est un morceau qui s'appelle Karma Sutra.
Alors moi c'est Greg, alias Greg Leroux, pour les intimes. Moi j'ai grandi à Glan, moi je suis arrivé en 98 à Glan. J'ai fait donc toutes mes écoles ici. J'ai habité tout le long ici, je suis jamais parti. Et puis j'ai fait mon apprentissage à la commune de Glan aussi. Moi qui est de l'extérieur, c'est un quartier que j'ai toujours trouvé un quartier populaire. Enfin, moi c'est jamais un endroit qui m'a je sais qu'il y a des gens qui ont des a priori par rapport à ce quartier-là, qui disaient que c'était un peu la zone à Glan, ce genre de choses. Moi j'ai toujours connu des gens et je connais pas mal de personnes qui habitent à la Cité Ouest depuis tout petit.
Alors, comment est-ce qu'on pourrait dire ? Il était mieux perçu qu'il n'est devenu, parce que plus tard, il y a eu des gens, disons, plus pauvres, entre guillemets, qui se sont installés là, même des fois dans un deux pièces, une famille qui n'avait pas beaucoup d'argent, tout ça. Au moment où il y a eu une grosse arrivée de... C'était justement un peu après vous, là, une grosse arrivée d'enfants kosovars et aussi portugais qui arrivaient. Moi, j'ai eu une petite élève, elle arrivait des montagnes au Portugal. Et puis, ils avaient, même les parents, ils avaient il savait à peine lire, c'était très compliqué. Alors là, il y a eu un peu des fois des remarques, mais quand vous étiez là, non, on disait, bon, la cité, c'était un rassemblement où il y avait plus d'immeubles, mais c'était, à ma connaissance, c'était pas négatif, non.
Bah, je pense que c'était vraiment un peu le quartier de barre d'immeubles. Et puis il y avait dans notre classe, en tout cas, une dynamique du fait qu'on avait tous grandi ensemble. Et puis qu'en plus, on avait été à l'école enfantine dans une classe que cette équipe-là, où tout le monde se connaissait et puis était assez soudé. Donc je pense que dans une classe, ça ne devait pas être très soluble comme équipe. Et on peut remercier la commune de Gland qui a quand même eu l'idée d'appeler ce quartier la Cité Ouest, qui est relativement... une assez mauvaise idée. Ma mère me dit souvent, quand elle remplissait des papiers, etc., qu'elle n'était jamais très contente de mettre Cité Ouest. Que ça fait toujours un peu bizarre.
Mais je veux dire, en soi, le quartier n'était pas mauvais. C'est juste qu'il y avait des jeunes qui traînaient plus que d'habitude à un endroit. Et qu'il y avait deux tours, quoi, tu vois, à Gland. Et je pense que c'est peut-être plus ça qui a déplu à peut-être l'ensemble des habitants de... la ville de Gland, pour dire que c'était un peu un quartier mal famé, parce qu'il y avait un peu ce truc, je sais pas, non ?
Rétrospectivement, c'était trop bien. Moi, j'ai, en tout cas, en tant qu'enfant, j'ai adoré ça. Enfin, maintenant, on vit dans un petit village où on a très peu de voisins, et puis mon mari, il aime pas trop avoir des contacts avec les voisins, parce que sinon t'as toujours les enfants des autres, des gens chez les autres, et puis il a envie d'être chez lui, tu vois. Et moi j'étais là, mais tu te rends pas compte, à la Cité Ouest, c'était trop bien, on était tous tout le temps dehors, et puis... parce qu'aujourd'hui, tu sais, les parents, ils laissent plus forcément les enfants sortir et puis juste jouer entre eux. Ils sont obligés d'être là, parce que sinon on a peur qu'il arrive quelque chose. Donc c'était trop bien de vivre dans un quartier comme ça, où... tout autour, il y avait de toute façon que des immeubles, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait que des enfants. Tu sors de chez toi, tu as de toute façon quelqu'un avec qui jouer. Non, c'était... enfin, en tout cas, enfant, j'ai adoré vivre ici. Mais,
Et voilà, je pense que c'était d'ailleurs les deuxièmes fois où je voyais Christophe. C'était vraiment dans ce parc-là. Donc lui, il ne se mettait pas de mémoire, pas dans le parc même, mais il se mettait soit à l'entrée, là où il y avait les bancs, soit plus loin vers les tours. Et puis, je le voyais faire... Soit je le voyais aussi faire des saltos, des trucs comme ça. Soit je le voyais aussi faire des sparring avec des potes. Donc voilà, ça c'est là où je revois Christophe.
Tu m'as parlé des acrobaties de Christophe, mais tu sais, moi j'avais plus en tête que c'était Kenny qui faisait des acrobaties. Mais je pense qu'ils se challengeaient un peu les deux. Je me souvenais qu'en tout cas Kenny, il faisait des... tu sais, il courait, il montait au-dessus de l'arbre, il faisait le saut périlleux. Mais il était hyper agile aussi, Christophe.
Après, on a commencé à grandir. Et lui, justement, s'est lancé dans des trucs de Yamakasi avec un autre pote, avec Kenny. Et puis, mais ils abusaient trop un peu des fois. C'était trop haut pour moi, du coup, j'avais pas le même courage qu'eux. On s'est arrêté. Pour moi, je me suis arrêté là, et eux, ils ont continué un peu à grimper un peu dans tous les immeubles qu'il y avait.
Ouais, mais c'était un peu un casse-cou, hein, Christophe. Il avait pas peur de se faire mal ou de tomber ou de faire des trucs. C'était un peu une espèce de Yamakasi, hein, Christophe, hein, cette période-là aussi. Hein. Il aimait bien un peu voltiger. Hein. Mm-hmm. Il a toujours eu cette facilité un peu à voltiger.
Il était trop en mode Yamakasi. Il y a ça aussi. Mm-hmm. On voulait trop faire les Yamakasi et tout. On était trop à fond là-dedans. Enfin, moi, j'ai jamais été trop un gars. Genre, je faisais des saltos et tout. Mais lui, il gérait trop. Lui et Mas, il gérait bien les saltos et tout ça, tu vois. Et je sais qu'ils adoraient faire ça.
Ouais, Christophe, lui, il aimait bien les Yamakasi. Il y a ce film qui était sorti, les Yamakasi.
Alors vous allez me les boucler pour leur apprendre que la cité c'est pas un zoo, et fis ça, parce que si on n'a pas de résultat avant la fin de la semaine, j'appelle la section spéciale, et lundi, il y a Safari.
On bouge. Non,
cette fois-ci on va pas se faire avoir, on va les ramener.
C'est la classe. Ouais, franchement c'est mortel.
Alors qu'aujourd'hui maintenant c'est un sport qui rentre gentiment dans les... dans le monde du sport, le parcours. C'est extrêmement répandu aujourd'hui, le monde du parcours, avec, avec YouTube, les GoPro et tout ça. Et Christophe, au final, c'était un précurseur. Il voulait faire du parcours. Il faisait du parcours avant même que ça existe, quoi. Il faisait du freestyle. Donc, on s'amusait à faire du parcours quand on était petit, à sauter, à faire des roulades et tout. Les acrobaties, ouais, comme tu dis. Et puis, lui, il était assez doué parce qu'il osait faire ces trucs que moi, je n'osais pas faire. Genre les perdus arrière, quoi. Les flic-flac, les trucs, les machins, moi, je n'osais pas. Et bon, c'est bien fait de pas faire. Ça a pu mal finir aussi.
Mais moi, la première chose qui me vient, le premier souvenir que j'ai avec Christophe, ça sera Yamakasi, parce qu'avec lui, on a vraiment fait. On aimait ce film énormément. On l'a regardé des millions de fois, regardé, et on s'était même fait des t-shirts Yamakasi. Enfin, lui surtout, s'était fait un t-shirt Yamakasi que j'avais cassé sans faire exprès d'ailleurs. On avait voulu ce jour-là. Ouais, je dirais poursuite. Premier souvenir qui me vient.
Il y avait un gosse du quartier aussi qui habitait dans le bâtiment avec les stores colorés, où il y avait d'ailleurs le saule pleureur et puis le coiffeur, qui s'appelait Karim. Et je crois que c'était avec lui, avec Christophe, et puis il y avait probablement Jacques Alain aussi, il y avait deux, trois autres personnes du quartier. Et on jouait à Yamakasi, c'était l'époque de la sortie du film Yamakasi. Et on allait partout où on pouvait. On était gosses, hein, donc on avait quand même été limités physiquement, j'ai envie de dire. Mais on montait sur les abris à conteneurs en béton qui étaient côté maintenant... là où il y a le cabinet dentaire, donc ce bâtiment qui est à côté avenue du Mont-Blanc. Donc entre le bâtiment à store coloré et là où il y a maintenant ce bâtiment, il y avait justement ces abris, d'ailleurs ils y sont toujours. Puis on montait là-dessus, et puis le but c'était de monter sur un truc et puis d'avoir les coronets de sauter en bas, quoi. Puis de faire la fameuse roulade des Yamakasi.
Il y avait un hangar à la Cité Ouest derrière l'immeuble des stores de couleur, avec un bateau, avec une entrée de garage. Et il y avait un saut de peut-être, je sais pas, 5 mètres. Puis en plus des 5 mètres, il fallait sauter par-dessus une barrière sans toucher, puis atterrir de l'autre côté dans l'herbe et faire une roulade. Donc ben, forcément, Christophe est passé le premier. Il n'y en avait pas beaucoup qui faisaient ce que Christophe et moi, on faisait en termes de poursuite. Police-voleur. Je crois qu'on était 3 ou 4 maximum à avoir un niveau supérieur aux autres. Il me dit, bon, je vais commencer, je vais sauter. Je lui dis, t'as ma parole. On s'est fait ce check, ce fameux check, on se checkait comme ça, comme dans le film Yamakasi. Je lui dis, t'as ma parole, si tu arrives à sauter, je te suis. Il a fait son saut. Et franchement, j'étais sûr qu'il n'allait pas le faire. Du coup, j'étais obligé de le faire. On était avec une trentaine de gaillards, je devais montrer que je sautais aussi. Il fait son saut, hyper bonne réception, petite roulade, parfait. Comme s'il avait fait ça toute sa vie. Je dis, bon, j'ai plus qu'à. Je cours, je saute, puis une fois en l'air, je réalise que je suis vraiment haut quand même, dans ce saut. Et au moment de me tourner, paf, j'ai la tête qui tape par terre. Ça m'avait sonné, je me suis levé, ça m'a un peu secoué la tête, etc. Mais je l'avais quand même fait. Aux yeux des autres, c'était... il a moins bien réceptionné, mais il a quand même sauté. Les autres ont porté un jugement sur ma réception, etc. Mais je m'en foutais, pour moi c'était secondaire, étant donné qu'eux n'avaient pas sauté. Voilà.
Tout petit, on a commencé vite à faire des acrobaties, donc des saltos, un peu de breakdance, les deux. Et puis, ouais, ça a commencé comme ça, quoi. D'ailleurs, il y a une petite vidéo sur son Instagram où on est les deux. Ça date, je crois, de 2002. Si je dis pas de bêtises, on est jeune, hein. Puis on fait des saltos, tout ça. Donc, ouais, on a commencé jeune. On était fanatiques de ce film, ouais.
Putain, mais c'est quand même pas possible. Où est-ce qu'elle est ? Ah, voilà. Je m'appelle de Massimo. C'est Massimo et ça c'est moi. On a retrouvé cette fameuse cassette. Sauf qu'elle est hyper vieille, hein. Mais on l'a retrouvée, tu vois, c'est un truc de fou.
tu reconnais le quartier de toute façon. C'est un délire, hein.
Putain, il n'y a plus de batterie, c'est ce qu'on disait dans la vidéo. Incroyable, hein.
C'est dingue.
C'est un truc de fou, hein.
Mais mec, en plus, cette fameuse cassette, bah, je la cherche là, pour te la... je la cherchais avant pour te la montrer, je sais pas où elle est, mais je l'ai... C'est une toute petite cassette comme ça, que tu dois mettre dans les cassettes vidéo. Tu vois les anciennes cassettes vidéo? Bah, c'est une cassette comme ça, à peu près la forme. Et on ouvre le truc et on met une petite truc dedans, une petite caméra. C'est tombé, j'ai retrouvé ce truc-là, je me suis dit, putain. Et j'ai réussi à la faire lire chez le frère à Thomas Schilliger. Je sais pas si tu te rappelles. J'ai vu ça chez son frère, enfin bref. Voilà, ce souvenir de fou, tu vois. Voilà, c'était la petite parenthèse, pardon.
C'était, ça a duré, je sais pas, pendant 4-5 ans, je crois. Si je dis pas de bêtises, que pendant 4-5 ans on a fait ça, puis après, bah. En grandissant, on faisait d'autres choses. Mais voilà.
Mais après, bah. On a continué à grandir, puis c'est là que. Que les petites conneries sont arrivées.
Donc par moments, il a réussi à me prendre avec lui, à me convaincre d'y aller. Mais. Par moment, pour moi, c'était presque trop gros, donc je préférais le laisser faire ses expériences, ses trucs, mais je voyais bien qu'il y avait un problème là derrière, avec lui, pour qu'il fasse ça. Il y avait quelque chose qui clochait.
Plusieurs fois, j'étais avec lui encore ces deux dernières années, on parle, tout le monde, il appelle. Ouais, et puis tu vois que c'est du message un peu codé, tu sais. J'étais là, ok. Ce garçon, il changera jamais. Et voilà, tu vois. Et puis après, ben en même temps, tu me dirais, qu'est-ce qu'il a à perdre, mec? Enfin, vraiment. Là, vraiment, et là, qu'est-ce qu'il a vraiment à perdre?
On rentrait chez les gens. Enfin, bref, on allait piquer des canettes de coca sur les balcons. Enfin, tout ce qu'on pouvait escalader. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'était à chaque fois, on faisait quelque chose, mais il fallait toujours aller plus loin. On rentre sur le balcon, ben on va chez le monsieur, on rentre dans son salon. C'est bon, Christophe, on peut partir maintenant. Non, non, on va voir dans sa chambre, s'il est là. C'était toujours trop. C'est des bons souvenirs, mais c'est des souvenirs qui sont, risqués. C'était par moments un peu risqué.
On avait un slogan, là. Tu rentres, tu ressors plus, je sais pas quoi. Ouais, les caïds, quoi. On essayait de faire les caïds, mais... Moi, quand je vois la jeunesse d'aujourd'hui, je me dis que c'était la même chose, quoi. Peut-être un peu pire, au moins pire, j'en sais rien, mais... Franchement... Ouais, je regrette de ouf. Je regrette de ouf. Et même Zouz, je pense qu'il doit regretter 2-3 trucs. Parce qu'on aurait pu... éviter quelques problèmes. Vraiment, des fois, des problèmes, on a eu. Et on s'est mis des bâtons dans les roues. Parce que lui, comme il était intelligent, il aurait pu aller beaucoup plus haut. Mais encore, c'est les problèmes l'ont rattrapé, quoi. L'ont rattrapé comme lui, comme moi, comme beaucoup. Mais ouais, on aurait tous pu prétendre à un meilleur travail. Ou... Après, je regrette rien, attention. Et lui, je pense qu'il regrette rien non plus.
Après, en grandissant, on a fait des choses... En grandissant, on a fait des choses graves, ouais.
Les Contes de la Cité Ouest, un podcast écrit et réalisé par David Janelas. Musique, Virginie Janelas. Coproduit par le Théâtre Forum Mérin et Radio Bascule.